Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 mars. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va très bien, toi aussi?
Oui, ça va nickel, un mardi.
C'est ça, un plaisir de faire l'émission dans le même studio en direct, émission dans laquelle on va parler des conséquences de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Conséquences aussi pour les agriculteurs, représentés entre autres par la FDSEA 53 avec son président qui va nous expliquer justement très concrètement comment ça se passe. Et puis on va recevoir aussi ici à Laval Thomas Pouteau pour son premier roman. Il avait déjà écrit un livre plutôt témoignage sur son expérience autour de l'anorexie, mais là il se lance vraiment dans la fiction avec un premier roman intitulé, je cherche évidemment pour ne pas écorcher son nom, intitulé Au sein des miens, donc on l'entendra tout à l'heure. Et puis ce sera aussi aujourd'hui le moment de la chronique avec la Maison de l'Europe à retrouver autour de... Aujourd'hui on va parler de l'adhésion de certains pays à l'Union européenne et comment ça se passe et notamment la lenteur de certains processus. Mais d'abord on va faire un point sur l'actualité avec une famille ukrainienne qui sera logée dans un des logements de fonction du collège Jules Renard.
Le conseil départemental vient de l'annoncer en collaboration avec la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Le logement a été meublé afin qu'il soit prêt dès leur arrivée.
Un homme immolé par le feu décède à Nau, dans le nord-est de la Mayenne.
Les événements se sont déroulés dimanche en fin d'après-midi. L'homme de 30 ans s'est tué en s'immolant par les flammes après s'être aspergé d'essence. Sa compagne, grièvement blessée, a été secourue par ses voisins, puis transportée en urgence par un hélicoptère du SMUR au service des grands brûlés du CHU de Tours. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place dans la salle des fêtes de la commune pour prendre en charge les témoins du drame. Une enquête est ouverte et la procureure Céline Meignier n'exclut pas la piste d'une tentative d'homicide volontaire.
Un feu de pavillon a argentré cette nuit.
Les pompiers sont intervenus vers minuit et demi pour un incendie rue des Terrasses. Le feu d'origine électrique a été rapidement éteint par les secours et les occupants du logement, une femme et son fils de 13 ans, sont indemnes.
Deux véhicules sont entrés en collision à Parigné-sur-Bray ce matin.
Et oui, l'accident s'est déroulé vers 11h15 dans la zone artisanale de la Lande. Les deux conducteurs, une femme de 55 ans et un homme de 58 ans légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Mayenne.
Attention, évitez de tailler les haies et d'élaguer les arbres jusqu'au 31 juillet.
C'est ce que rappelle l'OFB, l'Office français de la biodiversité, via la préfecture de la Mayenne. Cela risquerait de déloger les oiseaux qui sont dans une phase importante de leur cycle de vie. La PAC, politique agricole commune, interdit d'ailleurs à tous les agriculteurs de tailler leurs haies du 1er avril jusqu'au 31 juillet.
Un coup de pouce supplémentaire aux agriculteurs qui étaient touchés par le gel en avril dernier.
Un dispositif d'indemnisation complémentaire est mis en place pour les producteurs d'arbres fruitiers, de petits fruits, vignes, colza, lin et houblon qui ont subi au moins 30% de pertes de récolte suite au gel d'avril 2021 et qui ont souscrit un contrat multirisque climatique. Au niveau national, l'enveloppe représente 63 millions d'euros. Les demandes d'indemnisation sont à solliciter jusqu'au 6 mai sur la plateforme de France Agrimaire.
Et en football, les Tangos reprennent 5 points d'avance sur leur dauphin Annecy.
Grâce à leur victoire hier face à Bourg-en-Bresse sur le score de 2-1, Julien Maggiotti et Ryan Ferraoui sont les buteurs. Le prochain match pour les Lavallois, ce sera lundi prochain face à Sedan. Mais Olivier Frappoli devra faire sans Geoffroy Durban suspendu.
Ils ont déjà vu le prix de leurs engrais multiplié par 3. DSEA 53, syndicat majoritaire chez les agriculteurs en Mayenne, alerte sur les conséquences déjà palpables de la guerre en Ukraine. Leurs charges sont aussi concernées comme le pétrole ou le gaz. Florent Renaudier, président de la FDSEA 53, cible deux principales inquiétudes.
Autour du fioul, donc voilà, le printemps arrive, donc les agriculteurs vont démarrer les travaux de printemps qu'on appelle, voilà. Et un deuxième qui est aussi apparu très rapidement, c'est autour donc des engrais, où là voilà, on a vu multiplier par 3 le prix donc des engrais, donc c'est l'alimentation des plantes tout simplement, hein. C'est les deux principaux facteurs aujourd'hui qui ont augmenté. Au-delà du prix, il y a cette question de la disponibilité des matières premières. Et donc, il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait quelques difficultés d'approvisionnement en gasoil pour les agriculteurs, mais aussi pour les CUMA et pour les entreprises de travaux agricoles. Voilà, donc là, il semble que ça redevienne un petit peu à la normale. Par contre, de grosses inquiétudes pour l'approvisionnement en engrais, pour finir la campagne, je dirais, 2022, mais surtout celle qui va commencer en 2023, où là, pour le coup, on n'a aucune certitude des approvisionnements. On est en train d'étudier différentes pistes. La première, peut-être, voilà, c'est de valoriser encore mieux donc, nos effluents d'élevage, c'est-à-dire nos fumiers et nos lisiers, pour qu'on puisse être moins dépendant des achats d'engrais pour nourrir nos plantes. Il y a eu un impact très fort autour donc, du prix du blé. Et pour le coup, le blé est l'alimentation principale des porcs et des volailles. Donc il y aura forcément un impact, ce qu'on appelle du coût de production. Quand la volaille mange la même quantité d'aliments, mais que le prix est multiplié par deux, automatiquement, notre coût de production, ce qu'on appelle, augmente. Donc il y aura forcément un impact aussi aux consommateurs, parce que les agriculteurs voilà, ne peuvent pas produire à perte. Et je dirais que c'est l'ensemble de la filière voilà, qui doit faire passer des hausses auprès de la grande et moyenne distribution. Et par rapport à la pénurie, on est plus inquiet pour les pays dans le monde qui sont acheteurs de blé. Aujourd'hui, la France produit du blé et est un petit peu encore dépendant des achats extérieurs, mais globalement, on est quasiment autosuffisant. Il y a d'autres pays dans le monde, je pense aux pays d'Afrique du Nord, où là, quelque part, là, ils sont acheteurs en direct de ces matières premières-là, qui est aussi leur alimentation. Et on sait que, voilà, que ça peut poser problème dans ces pays par la non-approvisionnement de la céréale.
Et une autre solution envisagée, c'est la détaxation du GNR, le gasoil non routier, utilisé par les agriculteurs et les pêcheurs. Le syndicat espère une réouverture exceptionnelle des négociations commerciales avec les grandes surfaces pour réussir à faire face à l'inflation.
Et tout de suite, on passe à l'interview de Thomas Puteau qui va nous parler de son premier roman. Mais avant, on écoute Deng de Mac Miller.
Keep on losing. see you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing.
Can't keep losing you.
Dans l'agité du local jusqu'au dernier bout, jusqu'à la dernière seconde, évidemment, dingue dans l'agité du local qu'on vient d'écouter. Vous êtes bien à l'écoute, de l'écoute toujours, avec sur l'autre radio. Et on reçoit aujourd'hui Thomas Poutot. Bonjour.
Bonjour.
Effectivement, une voix que, alors que là vous n'avez pas pu entendre beaucoup, mais que vous allez peut-être reconnaître si vous êtes des auditeurs fidèles, puisque c'est celle de l'animateur de Lecture en Tête à Tête, une émission sur nos ondes d'interview d'auteurs et autrices avec l'association Lecture en Tête. Et cette fois-ci, eh ben on change de côté, vous êtes passé de l'autre côté du micro pour aujourd'hui nous présenter votre premier roman, Au sein des miens, donc qui est paru en décembre dernier aux éditions Maya, premier roman, donc ça je l'ai dit, mais pas premier livre, qui là pour le coup était paru il y a 3 ans. Je reviens d'une anorexie et comment j'ai relevé ce défi, c'était donc le titre de ce livre paru aux éditions Frison Roche. Et déjà à l'époque, il y a eu ce besoin d'écrire, en tout cas de passer par ce biais, c'était presque une évidence.
C'était presque une évidence, oui et non. Avant ça, vous parliez justement de l'impact du conflit ukrainien sur nos agriculteurs locaux. Moi, l'écriture est une ressource primaire au même titre que l'alimentation et l'eau. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi pu mettre finalement entre parenthèses parce que j'ai été licencié au sein du club et du centre de formation du Stade Lavallois. Et finalement, le football avait pris toute la place, mais c'était un rapport à l'écriture que j'avais depuis l'enfance. Et qui est revenu, finalement, après avoir délaissé le football comme ça, c'est revenu presque comme un impératif vital. Et donc, effectivement, je me suis lancé petit à petit là-dedans. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une nécessité.
Donc, il y a eu ce premier livre, vraiment un livre témoignage, pour le coup. Et là, vous êtes passé à la fiction, vraiment sur un roman. Est-ce que c'est deux écritures complètement différentes ou finalement on reste quand même dans l'écriture et donc dans un récit, quel qu'il soit, et donc il y a quand même beaucoup de points communs?
La narration est quelque chose qui m'intéresse énormément, et déjà en fait à travers le premier récit que mon éditeur a catalogué comme étant un témoignage, un récit de vie, un témoignage, j'accordais une importance relative à la narration, au fil narratif, à la construction narrative d'un récit. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier sur ce livre témoignage-là, mais moi, initialement, je souhaitais écrire un livre. Je souhaitais certes témoigner, mais je souhaitais d'abord raconter une histoire. Et donc pour moi, finalement, le processus a quasiment été le même, sachant que là, j'avais une liberté qui était autre, voire plus vaste encore.
Et est-ce que c'est peut-être justement après avoir écrit ce premier livre témoignage autour de votre anorexie, de comment vous vous en êtes sorti, que vous vous êtes dit, après avoir vu ce que ça avait fait aussi, peut-être créé chez vous, le fait d'avoir écrit ce livre, les retours des lecteurs, vous vous êtes dit, ça me donne envie aussi d'en écrire un deuxième, ou c'est vraiment deux choses complètement différentes?
Ça m'a donné envie après... Comme je disais, c'est un besoin presque vital, et j'écris d'abord pour moi, c'est un besoin. Le retour, du lecteur est essentiel aussi, moi, dans ma pratique de l'écriture et dans l'amélioration aussi de mon écriture, mais Mais dans le processus créatif, en tout cas, je ne pense pas au regard du lecteur. Après, j'écris beaucoup de choses. Il y a eu ce premier livre témoignage, il y a eu des récits de voyage aussi quand je suis parti en Argentine. J'écris de plus en plus de la poésie, du slam. J'ai d'autres bouquins, on va dire, qui sont entre parenthèses et en train de mûrir en attendant. Donc l'écriture, oui, est l'essence, quoi.
Et donc, dans ces cas-là, on écrit un petit peu tout le temps. Est-ce que là, par exemple, quand vous avez... Alors, c'est peut-être un petit peu un fantasme de l'écrivain, mais est-ce que vous avez, quand vous avez un petit peu de temps, vous écrivez? Ou à l'inverse, il y a quelque chose qui vous vient en tête?
C'est assez particulier, je dirais que ça dépend des contraintes de la vie. Là, actuellement, par exemple, j'écris beaucoup de slam parce que j'ai un quotidien qui est assez rythmé. Donc, ça vient beaucoup lors de mes phases de marche. Je marche beaucoup. Mais effectivement, quand j'ai plus de temps et que je peux me poser, là, je dirais que je peux partir sur un récit au long cours et ce qui serait davantage apparenté au roman, par exemple.
Et j'imagine que là, les auditeurs se disent, bon, c'est très bien, elle pose beaucoup de questions, mais parlons de ce livre en tant que tel, au sein des miens, justement, déjà, peut-être tout simplement dire de quoi ça parle, quelle est l'histoire. Je crois que tout tourne autour d'une disparition, c'est ça?
Exactement, c'est-à-dire que le narrateur, qui peut s'apparenter à moi, mais qui n'est pas moi, raconte ou décide de raconter le dernier mois de vie de son père qui a disparu. Donc on n'a aucune nouvelle du père, et lui, finalement, de retour de voyage... se rend bien compte effectivement que le père n'est plus présent, et plutôt que de partir à la recherche ou autre, va décider d'écrire en fait le récit du dernier mois quasiment de la vie de son père, et tenter de chercher des explications à cette disparition là.
Une histoire qui a été inspirée par quoi, puisque vous dites on se pose la question vraiment quand on regarde en tout cas le résumé. Est-ce que c'est une véritable histoire? Est-ce qu'il y a quels éléments sont autobiographiques là-dedans, ou est-ce que tout est inventé? Est-ce que vous allez peut-être rien nous dire aujourd'hui parce que ça fait partie justement de la découverte à la lecture?
Tout à fait, et je pense que même après la lecture, encore moi, des lecteurs me demandent ce qui est vrai, ce qui est faux. Je pense pas que ce soit la bonne question, ou du moins c'est pas la question à laquelle moi je peux répondre. Moi j'écris, je produis, je dirais, un objet artistique, et derrière c'est au... Moi ce qui m'importe, c'est est-ce que le lecteur y croit véritablement. Et je pense que ça fonctionne. Mon père y a cru, notamment, parce que voilà, ce père disparu s'apparente énormément à mon père, mais ce n'est pas mon père.
La mère... Parce qu'on voit, il y a le même nom, vous parlez aussi à la première personne, enfin, vous écrivez à la première personne, il y a tout ça aussi qui peut...
Exactement, oui, oui, oui. Moi, je me suis vraiment inspiré de mon quotidien, toute ressemblance avec la réalité, bien évidemment, est souhaitée, est voulue. Et donc, voilà, je pars d'un phénomène, je pars aussi d'une question existentielle pour tout enfant. Que se passe-t-il le jour où un de nos parents, finalement, disparaît ? Au sens métaphorique du terme, avec un décès, mais aussi au sens concret du terme, c'est-à-dire que quelquefois nos parents sont moins présents au domicile, quelquefois ils peuvent aussi quitter le domicile, et c'est un phénomène en France dont on parle assez peu, mais il faut savoir qu'en France il y a 2500 personnes qui disparaissent volontairement dans la nature. C'est un phénomène qui est beaucoup plus conséquent au Japon, ils sont 100 000, donc 100 000 Japonais disparaissent chaque année dans la nature volontairement, et donc ça m'intéresse en fait de savoir... Pourquoi on souhaite disparaître volontairement dans la nature? Enfin, je pense que ça dit beaucoup aussi de notre monde et de sa violence, quoi.
Et c'est ça que vous avez voulu justement, en tout cas aborder, j'allais dire traiter, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas aborder dans ce roman-là. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous interroge peut-être?
Oui, oui, oui. En tant que fils, moi, c'était une de... Je pense que, en m'interrogeant rétrospectivement sur cette question-là, je pense que vraiment, j'ai eu cette crainte-là. Moi, je suis très proche de mes parents. D'ailleurs, le premier récit est un hommage très clairement à mon père. Et je pense que de cette peur-là, en fait, qui pouvait me bloquer à certains moments de ma vie, que ferais-je à partir du moment où mon père disparaîtra, finalement, est sorti ce récit-là. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisé avec l'après.
Et c'était plus facile peut-être d'écrire ce récit. Donc même avec des éléments autobiographiques ou pas, évidemment, mais en tout cas, c'est pas un récit, c'est pas un reportage, en se disant, bon, j'ai réglé ça, de toute façon, moi, ce point de vue-là personnel, ça, c'est réglé, donc c'est plus facile de se projeter en faisant comme si c'était vrai, en tout cas, même si...
Oui, je pense que ça part d'une cicatrice. Je dirais que d'une certaine manière, soit il faut tourner la page, soit il faut essayer d'écrire des choses sérieuses dessus. Et moi, j'ai absolument pas envie de tourner la page, donc j'essaie davantage d'écrire des choses sérieuses dessus. Et après, ce besoin d'écrire vient aussi quelque chose qui est assez important. Mon corps a retenu beaucoup de choses et retient à une très bonne mémoire, notamment je reviens d'une anorexie, enfin, je parle finalement de mon rapport au corps, à la vie, etc. Mais j'ai une très mauvaise mémoire, donc écrire me permet aussi de me souvenir de ces choses-là. Je pense que j'écris aussi parce que j'ai pas envie que le monde oublie, ou plutôt j'essaie de mettre les gens face à leurs propres contradictions. Je pense qu'on a tendance notamment à oublier beaucoup de choses, de nombreuses choses, notamment la violence du monde sur les habitants de cette terre, ceux qui peuvent l'habiter. Et notamment, une généralité qu'on a trop souvent oublié, c'est que le quotidien des ouvriers au sein d'une entreprise... Enfin, moi, l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important. Il se passe beaucoup de scènes au sein de mon roman dans l'entreprise, justement, qui brutalise les corps, qui plie les deux en deux, les entreprises qui sont très froides, où c'est compliqué d'y travailler. Et finalement, on a tendance à oublier que les ouvriers qui sont à la chaîne, finalement, sont des personnes aussi enchaînées à ces choses-là. Et pour moi, c'était un point qui était aussi très important à aborder, quoi.
Mmh. Oui, c'est d'ailleurs dans la première phrase de la quatrième de couverture du livre où vraiment on voit que ce père que vous décrivez, il a travaillé, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, il a travaillé de nombreuses années à l'usine et il est un peu désabusé finalement.
Oui, exactement. Il y a une forme de pacte républicain. C'est finalement, je travaille et derrière, je suis enfin tranquille jusqu'au jour où lui, finalement, à un mois de la retraite, il disparaît, alors que cette retraite était tant attendue. Donc, que s'est-il passé pour qu'il y ait cette disparition-là ? Et ça rappelle aussi, finalement, que... En tant qu'ouvrier, on a deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans. Et quand on entend les débats actuels de certaines personnes, notamment qui n'ont pas des programmes très amples, mais qui font quelques figures d'annonce comme ça, de reléguer la retraite à 65 ans, voilà, un ouvrier, ça a deux fois plus de chances de mourir qu'un cadre ou autre avant 65 ans. Donc ces gens-là, finalement, sont exploités. Est-ce qu'on leur propose derrière quelque chose ? En l'occurrence, là, le personnage préfère disparaître, quoi.
Donc ça soulève quand même pas mal de choses et je pense en tout cas que certains de vos lecteurs ont pu s'identifier. Est-ce que c'est les retours que vous avez eus en dédicace par exemple qui ont été organisés il y a déjà quelques semaines voire même quelques mois, est-ce que c'est ça, c'est on s'identifie ou en tout cas on s'imagine assez facilement?
Oui, je pense que ça interroge beaucoup, notamment cette question de la disparition. Je pense que ça nous ramène tous finalement à notre quotidien, à nous aussi. Des fois, on a qu'une seule envie, ce serait de fuir, de disparaître. Je ne dis pas que c'est le destin de mon personnage, mais je pense que les gens aussi se retrouvent beaucoup dans les relations familiales. Enfin, mon titre, c'est tout de même « Au sein des miens », donc c'est-à-dire c'était l'édification d'une famille « Au sein des miens ».« Au sein », évidemment, il y a aussi un double sens qui pourrait être pathologique. Mais les gens se retrouvent aussi beaucoup dans l'espace, parce que l'espace de vie, l'espace de narration, le territoire géographique sur lequel l'histoire se déroule est la Mayenne, et beaucoup de personnes reconnaissent des lieux, et je pense que justement en visant le précis, en nommant les choses, je pense qu'on peut tenter de viser à peu près l'universel, et voilà, j'essaie de recréer l'ambiance mayonnaise telle que moi je la vis ici, quoi.
Donc vraiment, oui, vous situez l'histoire très précisément. Pourquoi finalement avoir fait ce choix, puisqu'on peut se dire que c'est une histoire qui aurait pu se passer très bien ailleurs, j'imagine ?
Oui, tout à fait. Et justement, je pense que si elle est crédible ici en Mayenne, elle peut se passer n'importe où ailleurs. Et enfin voilà, à cette époque-là, je lisais beaucoup de Pagnol. Pagnol, faut savoir que c'est Marseille, c'est très ancré et ça marche à l'international. Et moi, c'est mon espace, c'est mon territoire. Donc je puise dans la famille, je puise dans les interactions sociales avec qui je peux avoir. Et finalement, je puise aussi dans ce territoire-là. Enfin, moi, je suis diplômé de géographie. Le territoire, pour moi, est quelque chose de très important. Et cette Mayenne-là, c'est ma Mayenne à moi, je dirais. Enfin, voilà, la famille est domiciliée à Grenou, à Laval. Je suis né à Grenou, à Laval. J'ai grandi là-bas. J'ai fréquenté le stade Lavallois. Il y a des scènes qui se passent à Le Basser. Il y a un repas qui se déroule à l'éveil des sens à Mayenne, qui est un endroit que j'apprécie particulièrement. Enfin voilà, on retrouve beaucoup, notamment le bois de Coupois à Saint-Vertevin, où j'adore me balader. Enfin, pour moi, justement, pour rendre crédibles les choses, j'ai besoin qu'elle macère, qu'elle s'imprime en moi, et ça passait aussi par la restitution de cet espace-là, quoi.
Et vous disiez, en tout cas, beaucoup marché. Est-ce que c'est aussi des endroits où vraiment vous êtes allé pour le roman, ou pas du tout? Vous n'avez pas besoin non plus d'être sur place pour que viennent les idées et l'inspiration?
Non, effectivement, il y a vraiment... C'est pas un besoin. Là, j'ai souhaité le traiter de cette manière-là, mais en fait, c'est des endroits que j'ai surtout fréquentés depuis que je suis gamin. Et je pense que oui, voilà, comme je disais, ça a macéré et ça faisait sens, en fait, plutôt que de créer un lieu hybride ou créer de toutes pièces, finalement, là,
c'est
me disais...
plus difficile peut-être même de créer complètement autre chose.
Je ne pense pas. Après, là, j'avais presque envie justement d'écrire quelque chose sous la forme journalistique, reportage ou autre, et donc c'était d'autant plus facile d'accéder à ces lieux-là. Par exemple, moi, bon, c'était par souci économique aussi à cette époque-là, mais je suis allé travailler dans l'usine de mon père, et effectivement, j'ai pu m'imprégner de cette ambiance-là, j'ai pu regarder des documentaires, etc. Donc, je fais un conglomérat de ces choses-là, mais je sais pas, c'est peut-être plus évident, au contraire, de créer un lieu de toutes pièces.
Que de devoir être fidèle à la réalité, puisque là, justement, j'imagine que parmi vos lecteurs, il y a aussi pas mal de Mayennais que vous avez pu rencontrer. Donc forcément, ils n'ont pas le même œil que pourrait avoir quelqu'un qui ne connaît pas du tout les lieux.
Exactement,
même
c'est vrai.
Même si ce n'est que le cadre, évidemment, et qu'il y a un récit tout autour, hein, bien sûr. Mais...
Oui, et puis je pense qu'on interagit tous très différemment dans l'espace et dans le territoire. Nous, certes, on influe sur l'espace sur lequel on vit, mais le territoire nous influe énormément aussi sur nous. Et je pense qu'on a tous une sensibilité différente, et donc on est tous touchés, ou on a tous une vision différente sur le territoire sur lequel on vit, quoi.
Et donc... Votre jeune âge, quand même, on peut dire, déjà 2 livres publiés. Vous disiez en avoir encore d'autres idées, d'autres en carton. Est-ce qu'il y a déjà un projet plus précis, plus avancé que les autres?
Il y en a un qui est terminé et qui a été en... Une grande maison d'édition française avait organisé un concours d'écriture, notamment de romans. Celui qui remportait était édité par cette maison d'édition-là. J'ai accédé à la finale. Malheureusement, je l'ai pas gagné, mais... Je sens que le récit est conséquent, je sens qu'il me dépasse encore. J'ai pas l'impression d'avoir en fait tous les outils encore pour pleinement l'exploiter. Donc celui-là, je le laisse vraiment de côté. Je dirais que je fais ma vie à côté, je grandis, et le jour où j'y reviendrai, j'y retournerai pas à moitié. Mais oui, c'est une passion aussi. C'est une véritable passion, et je pense que c'est important aussi, vraiment la littérature autour de nous. L'amour, la poésie, pour moi, c'est le même pays. Donc, on a besoin de ça. Enfin, voilà, je pense qu'on a besoin de laisser une véritable place aux mots. Et j'ai presque envie qu'on édifie des terroristes de poésie, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'on doit y aller fièrement. Et s'il y a bien quelque chose qui peut nous aider et qui est aussi futile que la littérature, c'est bien elle-même, quoi.
Très bien, mais qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Rien de plus. Si, juste qu'on peut retrouver donc ce roman Au sein des miens aux éditions Maya, donc dans toutes les librairies ici en Mayenne et sur Internet aussi, j'imagine. Enfin, en tout cas, on peut le retrouver. Il n'y a pas besoin d'aller typiquement dans telle librairie. Partout.
Exactement. Normalement, je suis plutôt bien exposé. Il ne faut même pas hésiter non plus. Même au cinéma Le Vox à Mayenne, vous pouvez le retrouver, parce que je travaille là-bas et j'ai un petit stock de bouquins. Donc, c'est tout à fait possible.
Eh ben, très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Thomas Boutot, d'avoir été avec nous pour nous présenter justement votre premier roman.
Et on est dans quelques instants, la chronique avec la Maison de l'Europe. Mais avant, on écoute Paradigme de la femme.
Sur le bord de la route, on m'a laissé traîner. La nuit est sale et ma tête est en pleurs sur le pavé. s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir. Que je me dépêche et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire. J'aurais voulu le calme et éviter les histoires et éviter les drames, mais il est déjà trop tard. La vie me crame, mais dans les nuits je trouve mon heure de gloire. Pendant la nuit, les paradis s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir et de pleurer.
C'était La Femme avec Paradigme dans l'agité du local sur l'autre radio. Et c'est le retour de notre chronique mensuelle proposée par la Maison de l'Europe. Très inspirée par l'actualité aujourd'hui, vous allez l'entendre, puisqu'on parle adhésion à l'Union européenne. Bonjour Judith.
Bonjour Marie.
Alors, c'est le retour de la chronique de la Maison de l'Europe, chronique mensuelle, où on va revenir sur l'actualité avec l'Ukraine qui a notamment demandé son adhésion à l'Union européenne. Et c'est l'occasion justement de s'intéresser à cet élargissement de l'Union européenne avec d'autres demandes d'adhésion qui ont eu lieu, notamment celle de la Géorgie et de la Moldavie.
Oui, effectivement, quelques jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 28 février très exactement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé une demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette demande a été suivie quelques jours seulement après le 3 mars par celle de la Géorgie et de la Moldavie. Et le président ukrainien a demandé qu'une procédure spéciale soit mise en place pour permettre une adhésion sans délai de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc je vous propose de revenir sur cette procédure d'adhésion.
Puisqu'on peut se demander justement, c'est lancé comme ça, est-ce que c'est vraiment une demande réaliste ?
Alors tout d'abord, la France qui préside, je le rappelle, actuellement le Conseil de l'Union européenne a organisé les 10 et 11 mars dernier un sommet des chefs d'État et de gouvernement européens à Versailles. Et au cours de celui-ci, ils ont reconnu l'appartenance de l'Ukraine à la famille européenne et se sont montrés plutôt favorables à son adhésion sur le long terme. Par contre, ils ont rappelé qu'il n'existait aucune procédure d'adhésion spéciale à l'Union européenne. La procédure d'adhésion est particulièrement longue, elle peut prendre 10 voire 15 ans ou même parfois plus. Finalement, la demande du président ukrainien d'une adhésion sans délai paraît peu réaliste.
Et pourquoi justement rejoindre l'Union européenne, c'est si long ? Quelles sont les différentes étapes ?
Alors, avant même de commencer les négociations d'adhésion, les États doivent d'abord se voir octroyer le statut de candidat à l'adhésion. C'est un statut donc officiel. Actuellement, il y a 5 pays candidats, la Serbie, le Monténégro, la Turquie, la Macédoine du Nord et l'Albanie. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, qui sont leurs voisins directs, sont eux considérés comme des candidats potentiels, mais n'ont pas encore le statut de candidat. Ce statut, pour l'obtenir, il doit être voté à l'unanimité par tous les États membres de l'Union européenne qui vont juger notamment si la situation du pays rend plausible une adhésion à moyen terme. Ensuite, le statut de candidat ne veut pas forcément dire que l'on commence les négociations d'adhésion. Les États membres doivent à nouveau voter à l'unanimité pour ouvrir les négociations. Celles-ci n'ont par exemple toujours pas débuté avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, qui ont respectivement obtenu le statut de candidat en 2014 et 2005. Donc on voit que c'est très très long. Pour ouvrir les négociations, il faut que les États respectent un critère politique, c'est-à-dire qu'ils aient des institutions stables qui garantissent la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect et la protection des minorités. Alors on voit bien qu'au vu de ce critère, même si l'Ukraine obtenait le statut de candidat, on peut difficilement imaginer ouvrir sans délai les négociations. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a bien souligné à Versailles lorsqu'il dit « Est-ce que nous pouvons ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre ? Je ne le crois pas. » Et enfin, une fois que les négociations d'adhésion ont débuté, celles-ci peuvent prendre plusieurs années.
Et dans ces négociations, finalement, qu'est-ce qui est vraiment discuté ?
Alors, pour accéder à l'Union européenne, en plus de respecter un critère politique, comme je l'évoquais tout à l'heure, les États doivent respecter aussi un critère économique, c'est-à-dire l'existence d'une économie de marché viable dans le pays et la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union, donc rejoindre le marché intérieur de la capacité à rejoindre le marché intérieur de l'Union. Et pour des pays très pauvres comme la Moldavie qui a fait une candidature d'adhésion le 3 mars, ce critère risque d'être difficile à atteindre. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est aussi une histoire de 70 ans au cours desquelles de nombreuses lois et normes ont été adoptées. Et chaque candidat à l'adhésion doit faire en sorte d'intégrer toutes les normes de l'Union européenne dans son droit avant de rejoindre l'Union européenne pour de bon. Du coup, les négociations s'articulent autour de 35 thématiques et on ouvre et on ferme chaque chapitre en fonction des progrès du pays, ce qui prend assez longtemps.
Et du coup, quelles perspectives peuvent avoir ces États à court terme ?
Alors, ces trois États ont signé un accord d'association avec l'Union européenne depuis plusieurs années. Ils bénéficient de ce qu'on appelle le partenariat oriental qui leur permet d'obtenir des financements et de l'aide pour renforcer leur association politique et leur intégration économique avec l'Union européenne. Donc ça prépare en fait l'adhésion. Pour le moment, les États membres proposent surtout de renforcer ce partenariat et d'apporter une aide d'urgence aux Ukrainiens. Si le statut de candidat leur est accordé, ce qui ne signifie pas, comme je le disais, que les négociations débuteront, ils pourront tout de même bénéficier d'une aide à la préadhésion, donc avec par exemple des régimes simplifiés pour obtenir des visas et la possibilité de participer à certains programmes européens et de participer à plus de projets européens.
Merci Judith pour cette chronique autour du processus d'adhésion à l'Union européenne, chronique que vous pouvez réécouter sur notre site l'autreradio.fr et puis la prochaine ce sera au mois d'avril. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce mardi. Salut Andy, à demain.
Salut Marie, à demain.
On se retrouve demain pour une nouvelle émission, mais avant d'ici là à 19h il y aura Eldorado, émission rock et folk, à 20h The Voice of Cassandre et à 21h Pause Classique avec, je suis sûre que vous le connaissez vous aussi, le célèbre conte musical Pierre et le loup de Serge Prokofiev et sa symphonie classique. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Très belle journée.